Nous avons vu que le processus de canonisation s'était par étapes, qui correspond grosso modo aux divisions, au niveau de l'Ancien Testament en tout cas, de la division de l'Ancien Testament dans la tradition juive, c'est-à-dire d'abord la Torah, les Cinq Livres de Moïse, qui ont été pleinement reconnus comme inspirés à la dernière limite au retour de l'exil, puisque nous y voyons Ezra faire la lecture publique de la Torah, une journée toute entière, devant tout le peuple qui est rassemblé pour longtemps. Nous avons vu que déjà, il y avait un processus qui avait été engagé longtemps auparavant, à l'époque de Josias, nous trouvons un processus du même genre, et puis nous trouvons finalement une canonisation primitive qui est pratiquement contemporaine des textes eux-mêmes, puisque même lorsque ces textes sont scandaleux par rapport à la pensée religieuse des gens de ce là, ils ne se permettent pas de retoucher le texte, vis-à-vis duquel, par conséquent, ils ont le plus grand respect. Ce qui nous montre bien qu'il y avait déjà une canonisation très, même si elle n'était pas encore officialisée comme elle sera l'époque d'Ezra, une canonisation qui était très importante dès le départ. Alors, le deuxième groupe de livres qui ont été canonisés ensuite, c'est ce qu'on appelle sont les livres des prophètes. Bon, il y a dans le livre des prophètes deux grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les premiers prophètes et les derniers prophètes. Les premiers prophètes, c'est ce qui correspond grosso modo à ce que nous appelons nous les livres historiques, c'est-à-dire Josué, Juges, le livre de Samuel, le livre des rois, tandis que les derniers prophètes, c'est ce que nous avons tout simplement nous, les prophètes, c'est-à-dire Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et puis les 12 petits prophètes qui, jusqu'à une époque relativement récente, étaient groupés en un seul livre. Enfin, il y avait le livre des petits prophètes, et non pas comme aujourd'hui, dans la plupart de nos livres, 12 livres des petits prophètes. Alors, comment ces livres ont-ils été considérés comme saints? Eh bien, il est clair qu'au retour de l'exil, quand nous lisons les livres de cette époque-là, le livre d'Ezra, etc., il n'y avait pas encore le canon des livres prophétiques qui était clos, ne serait-ce que pour une raison très simple, c'est qu'il y avait encore à cette époque-là des prophètes en exercice, si je veux dire, et nous voyons notamment les derniers prophètes de l'exil, Malachie, Zacharie, Agée, qui agissaient à cette période de l'histoire d'Israël. Mais nous lisons, par exemple, à l'époque des Maccabées, que dans le Talmud aussi, on dit ça à plusieurs endroits, que après la fin de l'époque perse, c'est-à-dire après le ministère de Malachie en particulier, l'Esprit Saint a été retiré d'Israël, c'est-à-dire l'esprit de prophétie. Donc à partir du moment où l'Esprit Saint a été retiré d'Israël, il n'est plus pas prophète d'Israël. Et l'esprit prophétique ne réapparaîtra, d'après la tradition juive, que au moment de la venue du Messie. Je suis en train justement d'étudier là-dessus un écrit tout à fait récent, des choses tout à fait intéressantes à ce niveau, notamment que l'esprit prophétique ne peut pas être répandu chez les païens. Il peut y avoir de prophètes qu'en Israël. Si bien que ce que nous expérimentons, nous, dans le domaine des choses de l'esprit, eh bien, c'est quelque chose qui, selon la tradition juive, est une chose impossible. Et d'ailleurs, là, on voit vraiment s'accomplir ce que Paul disait dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, qui dit « J'exciterai la jalousie de ce peuple par un autre peuple qui n'est pas vraiment un peuple. » Je crois que, au fond, c'est très important que nous puissions, vis-à-vis du peuple d'Israël, être vraiment charismatiques, parce que finalement, c'est une réalité qui peut vraiment les interpeller. Bon, je ferme la parenthèse pour venir à notre propos. Donc, l'Esprit Saint retiré d'Israël, plus de prophète à partir de ce moment-là. Et c'est ce qui va donner aussi une grande importance à la Torah. Car si on ne peut plus compter sur un ministère prophétique pour conduire le peuple dans les voies du Seigneur, alors on est obligé, évidemment, d'avoir recours à un texte écrit. Et la Torah, à partir du moment où ne parle plus de prophète, va occuper une place centrale dans la vie spirituelle du peuple. C'est d'elle qu'on va chercher les directions pour la vie quotidienne, et notamment de la part de ceux qui vont être capables de l'interpréter, justement les scribes, les docteurs de la loi, les gens qui, comme Ezra, vont être les interprètes de cette Torah. Et après les prophètes, nous allons avoir maintenant les sages qui vont devenir les leaders spirituels du peuple d'Israël, et ceci jusqu'à nos jours. Les sages sont les successeurs des prophètes comme leaders du peuple, mais à l'inverse de ce qu'étaient les prophètes, qui étaient des hommes directement inspirés par le Saint-Esprit, les sages, eux, sont des gens qui interprètent, qui actualisent la parole éternelle de Dieu contenue dans la Torah. Donc, ce phénomène au sein du peuple d'Israël accentue encore le phénomène de canonisation qui était déjà engagé, comme nous l'avons vu, canonisation de la Torah. Mais dès que l'on croit aussi, n'est-ce pas, que l'Esprit Saint s'est retiré d'Israël, qu'il ne faut donc plus attendre aujourd'hui de révélations prophétiques, on est aussi amené, bien sûr, à accorder une grande importance aux écrits prophétiques du passé. D'où le fait qu'à partir de cette période-là, on va recueillir avec soin les écrits des prophètes de l'époque du premier temps, d'autant que ces écrits prophétiques se sont révélés vrais. Les prophètes ont annoncé la catastrophe que serait la destruction du temple de Jérusalem, de Jérusalem elle-même. Les prophètes ont annoncé l'exil et les prophètes ont annoncé le retour de l'exil. Ces choses se sont accomplies. Donc, on a là une preuve que ces hommes étaient véritablement inspirés de Dieu, et l'on conclut que ce qui n'est pas encore accompli dans leurs écrits, eh bien, va aussi s'accomplir. Donc, on scrute avec soin la parole prophétique pour y trouver des consolations, des directions, des exhortations pour le temps présent et une espérance pour l'avenir. C'est ainsi qu'a lieu le phénomène de la surécrit prophétique. Les écrits prophétiques qui, pour certains d'entre eux, sont écrits directement par le prophète, mais dont certains, la plupart d'ailleurs, sont des recueils en fait, d'oracles prophétiques recueillis par les disciples du prophète. Bien, nous savons qu'il y avait autour du prophète Ésaïe un certain nombre de disciples qui les citent, pas et le Seigneur lui dit dans un texte dans le 8e chapitre du livre d'Ésaïe, écrit ces choses dans un livre, scelle la vision au milieu de mes disciples. Donc Ésaïe, qui était un homme instruit, écrivait lui-même ses prophéties et ensuite les confiait à ses disciples. Jérémie lui aussi écrivait en partie ses prophéties, mais aussi nous savons qu'il les dictait à son secrétaire qui se nommait Baruch. Ézéchiel était un prêtre et donc aussi un homme lettré qui certainement a écrit lui-même la plupart de ses prophéties, lesquelles aussi ont été recueillies par des disciples. Par contre, il est fort probable que des hommes comme Amos devait être un homme qui n'était pas tellement lettré, peut-être même totalement illettré, et il est probable que les prophéties d'Amos, elles, ont été recueillies par des disciples qui les ont mises par écrit. À partir du moment où un oracle prophétique est mis par écrit, ce qui n'a pas toujours été le cas, puisque la Bible nous parle d'un certain nombre de prophètes dont les prophéties ne nous ont pas été conservées. Si on met par écrit un certain nombre de prophéties, c'est qu'on a l'intention de les conserver, et c'est qu'on leur reconnaît une autorité divine. Donc à partir du moment où il y a prophétie mise par écrit, il y a reconnaissance, en tout cas par certaines catégories du peuple, de leur origine divine, de leur inspiration donc, et de leur autorité. Bien sûr, nous savons, quand nous lisons les écrits des prophètes eux-mêmes, que de leur vivant, l'inspiration prophétique qui était la leur n'a pas fait l'unanimité parmi le peuple. Il y avait des gens qui contestaient la véracité de leur prophétie. Il y avait des faux prophètes, notamment, nous lisons cela en relation avec Jérémie, qui a eu affaire à un certain nombre de faux prophètes qui prophétisaient exactement le contraire de ce que lui, Jérémie, disait. Donc, de leur vivant, il n'y a pas eu unanimité sur la réalité de l'inspiration de leur prophétie. Mais, comme je disais tout à l'heure, après l'accomplissement des événements qu'ils ont annoncés, c'est-à-dire la destruction de Jérusalem, du temple, l'exil, puis le retour de l'exil, la preuve a été faite pour tous que ces hommes étaient bien des hommes de l'esprit inspiré. Et c'est pourquoi les écrits prophétiques qui avaient fait autorité jusqu'alors uniquement dans un cercle assez restreint du peuple d'Israël font désormais l'unanimité. Et il y a donc à ce moment-là une canonisation qui s'opère, en sorte que ces écrits sont placés avec la Torah par au nombre des écrits qui sont inspirés et qui font autorité pour la vie du peuple maintenant. Et dans le culte de la synagogue qui commence à se faire jour à partir de cette époque-là, puisque la synagogue est une institution qui naît dans l'exil, qui revient ensuite en Israël avec le retour du peuple de l'exil, eh bien, le culte de la synagogue comprend dès cette époque-là, donc dès la fin de l'époque perse, deux grandes parties. Une partie qui est la lecture de la Torah, donc des cinq livres de Moïse, et ensuite une lecture qui lui est équivalente, qui va dans le même sens, et qui est tirée, elle, des prophètes, la Tara. Ce qui prouve qu'il y a une officialisation, n'est-ce pas, des livres prophétiques qui se fait à partir de la fin de l'époque perse. En tout cas, quand nous arrivons à l'époque des manuscrits de la Mer Morte, donc la secte de Qumran qui apparaît au moins un siècle avant Jésus-Christ, un siècle et demi avant Jésus-Christ, eh bien nous trouvons parmi les écrits de Qumran tous les livres des prophètes, ce qui nous montre qu'à cette époque-là, la canonisation des écrits prophétiques était accomplie, était terminée. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que nous avons exactement le même nombre de livres prophétiques que ce que nous avons aujourd'hui dans nos Bibles. Maintenant, il est certain que ce sont les écrits qui ont été canonisés, qui ont été reconnus, qui ont fait l'unanimité malgré tout un petit peu plus tard que les écrits de la Torah. Et ceci aussi dans un sens, je dirais, parce que certaines prophéties ne s'étaient pas accomplies et semblaient contredites par un certain nombre d'événements. Je citerai par exemple le cas d'une prophétie d'Ézéchiel où le prophète annonce la destruction de Tyr, la ville de Tyr. Et nous connaissons cette prophétie, c'est une prophétie qui déborde beaucoup le cadre de la seule ville de Tyr, puisqu'il est question aussi du roi de Tyr qui est alors l'image de Satan. Mais il est certain que si l'on prend cette prophétie au sens strict, bien là, il y a un problème. Il y a un problème parce que on pensait, à l'époque du prophète, que cette prophétie se référait à la campagne de Nebuchadnezzar que ce dernier se proposait d'entreprendre contre Tyr. Le prophète cite lui-même cette tentative, n'est-ce pas, de Nebuchadnezzar de s'emparer de la ville de Tyr. Or, il y a eu là un accomplissement premier partiel, dans ce sens que la ville de Tyr était double, il y avait une langue de terre qui s'avançait dans la mer, qui faisait une espèce de presqu'île sur laquelle la ville était bâtie, puis en face de cette presqu'île, il y avait une île. Et il y avait donc, la ville avait débordé sur l'île. Nebuchadnezzar a réussi à s'emparer de la partie terrestre de la ville, mais il n'a pas réussi à s'emparer de la ville. Et le prophète annonçait tout le temps que la ville insulaire serait prise. Or, comme Nebuchadnezzar ne s'est pas emparé de cette partie insulaire de l'île, un certain nombre de gens ont conclu que, sur ce plan-là, Ézéchiel s'était trompé. Or, justement, ce qui est extraordinaire ici, c'est que malgré, n'est-ce pas, ce démenti apparent des événements, eh bien, on ne s'est pas permis, à cette époque-là déjà, de retoucher la prophétie d'Ézéchiel à ce niveau-là. Car si, effectivement, les hommes, les Israélites de cette époque-là, étaient des faussaires, comme essaie de nous le faire croire une certaine critique aujourd'hui. Vous savez, on entend ça à toutes les sauces aujourd'hui, que dans le fond, à l'époque biblique, à l'époque du Nouveau Testament aussi, on n'avait pas de la vérité la même conception que nos jours, et que, dans le fond, les copistes, les compilateurs des textes bibliques, de temps en temps, n'hésitez pas à retoucher, à donner un petit coup de pouce aux manuscrits qu'ils avaient devant les yeux quand ça n'entrait pas dans leur vue théologique, quand ça n'entrait pas dans leur. Ça ne coïncidait pas avec les événements, etc. Or, justement, nous voyons que cette hypothèse-là, qui est finalement celle de faussaire, qui projette sur les hommes du temps passé, ce qu'aurait été, ce que sont leurs propres pensées, eux, car si eux s'étaient trouvés à la place de ces gens-là, c'est ce qu'ils auraient fait. C'est eux qui n'ont pas de la vérité une vision juste, n'est-ce pas? Et s'ils avaient été à la place de ces gens-là, ils auraient retouché le texte, ils auraient supprimé cette histoire de la prise de tir par un roi venu comme ça. Mais les hommes de ce temps-là avaient un tel respect pour la parole de Dieu que même lorsqu'elle semblait contredite par les faits, ils ne se sont pas permis de la retoucher. Parce que pour eux, elle était vraiment parole de Dieu. Ils ont bien fait de ne pas retoucher ce texte. Sa prophétie était vraie. Et cet accord accompli 2 siècles plus tard, quand Alexandre le Grand est venu, lui, et s'est emparé justement de la ville de Tyr, la ville insulaire de Tyr, qui n'a plus jamais été rebâtie depuis, comme l'avait annoncé exactement le prophète. Mais j'attends qu'à l'époque du retour de l'exil, cette prophétie faisait problème. Alors donc, il y a une canonisation très ancienne. Et en même temps, une grande fidélité dans la transmission de ces prophéties-là. Alors ensuite, on a canonisé aussi ce qu'on appelle les premiers prophètes, c'est-à-dire justement ce que nous appelons, nous, les livres historiques. Bon, en quoi ces livres-là étaient-ils inspirés? Bien tout simplement parce que les Juifs ont vu dans ce récit, dans ces récits, qui pour les Occidentaux que nous sommes à leur place n'aurait pas eu beaucoup d'importance, ils ont vu une dimension prophétique. Parce que, au travers de ces récits, le Saint-Esprit dégage une signification, un sens de l'histoire d'Israël. Dieu conduit l'histoire d'Israël vers un but, et les événements ont une signification. Et une signification à caractère prophétique. C'est pourquoi les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, n'appellent pas ces livres des livres historiques comme nous le faisons, parce que nous ne comprenons rien, nous, en tout cas les Occidentaux, à l'inspiration prophétique. Mais ils appellent ça les livres des premiers prophètes. Car au travers de ces livres, qui se réfèrent au passé, on peut comprendre pourquoi aujourd'hui les choses sont ce qu'elles sont. Et finalement, ce qui sera demain. On peut faire une projection dans l'avenir à partir de ces choses du passé. Parce que la manière dont Dieu a agi dans le passé est encore la manière dont il agit aujourd'hui. Et sera aussi la manière dont il agira demain. Donc nous avons là une dimension prophétique. D'autre part, lorsque nous arrivons à l'époque du Nouveau Testament, l'époque de Jésus, eh bien, l'Ancien Testament, nous apercevons que l'Ancien Testament est pratiquement complet. Il y a, en effet, depuis l'époque maccabéenne, il me semble que l'époque maccabéenne soit le tournant où l'on a reconnu l'autorité des livres prophétiques et que le canon des livres prophétiques, disons, a été fixé. Il n'y a pas eu de discussion sur cette question-là. Par contre, il y a une troisième catégorie de livres qui a été un peu plus problématique. C'est ce qu'on appelle les écrits, Ketuvim en hébreu. On classe dans cette catégorie de livres les livres qui n'appartiennent ni à la Torah ni aux prophètes, que Jésus appelle les psaumes, et qui comprennent effectivement les psaumes, les proverbes, Job, les petits rouleaux comme Ruth, les lamentations de Jérémie, Esther, Daniel aussi, qui n'est pas considéré comme un prophète, mais comme un apocalypticien, qui est un petit peu différent. Et puis les deux livres des chroniques. Les deux livres des chroniques. Donc ce sont les derniers écrits. D'abord, ils occupent un canon à part, si j'ose dire, parce qu'ils sont d'une date beaucoup plus récente que les autres livres. La plupart d'entre eux ont été au moins achevés de rédiger au moment du retour de l'exil. Les derniers psaumes, les plus récents, datent de cette période-là, le psaume 137 en particulier, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Donc, les livres des psaumes commencent avec l'époque de David et se terminent au moment du retour de l'exil. Donc, date récente pour la plupart de ces écrits-là. Les proverbes aussi, n'est-ce pas, ont été recueillis par les gens d'Ézéchias, nous dit le livre des proverbes lui-même, bien que les plus anciens ont été écrits par Salomon, mais les plus récents s'y datent finalement du retour de l'exil, etc. Donc, une date relativement récente pour la plupart de ces écrits-là. Et puis, deuxièmement, ils appartiennent à un genre littéraire tout à fait différent, qui n'est pas prophétique à proprement parler, parce que la Torah est prophétique. Mais nous avons affaire à plutôt une réflexion humaine sur les choses de Dieu, sur les choses de la vie. Mais une réflexion humaine, donc le résultat d'une sagesse, le résultat de l'expérience de l'homme, mais d'un homme dont l'esprit est éclairé par l'esprit de Dieu. Donc c'est une sagesse qui n'est pas seulement une sagesse humaine, mais qui est la sagesse de Dieu communiquée à l'homme pieux, à l'homme juste, au croyant. Et c'est pourquoi nous avons là un genre littéraire tout à fait intéressant, car les hommes qui ont canonisé, qui ont reconnu l'inspiration de ces textes, ont dit là, il y a une inspiration. Dans ce sens que ces choses ont été écrites comme Dieu voulait qu'elles soient écrites. Mais contrairement aux deux autres groupes de livres, Torah et prophètes, il n'y a pas de révélation. Il y a tout simplement une inspiration. C'est-à-dire que ces hommes ont été poussés par l'Esprit à écrire. Ou à parler parfois, et ensuite ce qu'ils ont dit a été mis par écrit. C'est typique au niveau des psaumes. D'ailleurs, c'est pourquoi, à l'époque de Jésus, le mot psaume englobait tous les autres livres qu'on appelle aujourd'hui les écrits, c'est-à-dire les proverbes, Job et tout ça. Qu'est-ce que c'est les psaumes? Ce sont des prières. Bon, une prière contient finalement simplement l'expression de la pensée de l'homme. Ce n'est plus comme dans la prophétie, Dieu qui parle à l'homme, mais c'est l'homme qui parle à Dieu. Et c'est donc la démarche inverse. Seulement, il peut y avoir, et nous connaissons ça dans le domaine de la vie d'esprit, il peut y avoir une prière qui est une prière inspirée. Nous connaissons tous, peut-être dans nos propres vies, dans nos propres expériences, ces moments où, soudain, n'est-ce pas, le cœur est transporté dans la présence du Seigneur, et où, comme le dit la Bible, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Un petit peu comme lorsque Zacharie, n'est-ce pas, avait prophétisé au moment de la naissance de son fils Jean. Dans la joie de son cœur, il avait besoin de s'exprimer. Il exprimait finalement ce que l'Esprit de Dieu mettait sur son cœur. C'était ses sentiments, c'est vrai, les sentiments de reconnaissance, les sentiments de joie qui étaient les siens, mais en même temps exprimés sous l'onction de l'esprit. Donc il y avait une inspiration, mais il n'y avait pas de révélation, parce qu'il exprimait ce qu'il ressentait seulement. Et c'est cela le type de la prière inspirée. Maintenant, il y a aussi les cas où la prière peut contenir les éléments de révélation. Et vous avez peut-être expérimenté vous-même ce phénomène, où, surtout ceux qui ont quelques expériences dans le domaine de la prophétie, où parfois on se dit, mais j'ai prié tout à l'heure, mais plutôt que de prier, j'aurais pu prophétiser. Ou parfois, quand on entend telle et telle prière, on dit, tiens, celui-là, il est en train de prier. En fait, il pourrait prophétiser. Parce qu'il y a justement un élément d'inspiration extrêmement fort. Et insensiblement, selon l'importance justement de l'inspiration qui repose, n'est-ce pas, selon l'importance de l'onction de l'esprit qui repose sur l'individu qui prie, on peut passer insensiblement du domaine de la prière inspirée à celui de la prophétie. Et c'est ce qui se passe en particulier dans les psaumes. Vous avez des psaumes qui sont simplement l'expression du cœur de l'homme, de ses sentiments, de ses besoins. Et c'est pourquoi d'ailleurs, justement, les psaumes sont quelque chose qui sont tellement, comment dirais-je, que la plupart des croyants affectionnent tellement. Pourquoi ? Parce qu'on sent qu'il y a une dimension de vérité profonde. Finalement, on peut toujours se retrouver dans des psaumes, dans tel ou tel psaume. Psaume dans la détresse, en face d'un besoin, en face d'une bénédiction, d'un exaucement, d'une joie, d'une louange. Ça. Finalement, on trouve dans les psaumes toutes les situations dans lesquelles l'homme peut se trouver, le croyant peut se trouver. On trouve tous les sentiments que nous pouvons goûter, que nous pouvons expérimenter, à la fois sur le plan négatif, sur le plan positif, à la fois dans la tristesse et dans la joie. Et finalement, eh bien, on peut toujours prier avec les psaumes. Et c'est dans cela qu'il y a une inspiration extraordinaire, au niveau de ce livre en particulier. Et puis, évidemment, vous le savez fort bien, il y a des psaumes qui ont un caractère prophétique. Il y a des psaumes qui soudain contiennent des éléments de révélation. Par exemple, le psaume 22, lorsqu'il annonce les souffrances du Messie. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, etc. Et vous savez comment les évangiles se réfèrent souvent aux psaumes pour dire, eh bien, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit par David, etc. C'est bien la citation qui vient du psaume. Il est tout à fait intéressant de voir aussi la place qu'ont les psaumes dans la vie de Jésus. Le nombre de psaumes, de versets tirés des psaumes que Jésus cite dans certains moments de son existence. Jésus était un homme qui était vraiment familier des psaumes. Et qui souvent discernait dans les psaumes des réalités qui avaient été dites de lui. Bon, il y a les psaumes messianiques, le psaume 2. Pourquoi cette agitation parmi les nations, parmi les peuples, les rois de la terre se lient contre le Seigneur et contre son Messie, et puis l'annonce, n'est-ce pas, de cette victoire de Dieu. Le psaume 110, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le psaume 45, on pourrait citer comme ça de nombreux, très très nombreux psaumes qui ont un caractère de révélation prophétique. Mais il est certain que cette dimension de révélation peut parfois être absente des psaumes. Et en tout cas, elle est beaucoup moins forte que dans les écrits prophétiques proprement dits. Même si, effectivement, dans les écrits prophétiques, parfois, il y a des passages où il n'y a pas de révélation. Il y a des passages prophétiques, il y a des passages historiques chez les prophètes. Par exemple, le récit de la campagne de Saint-Frédéric dans le livre d'Ésaïe, le récit des aventures de Jérémie avec le roi Sédécias, qui sont des passages historiques et non pas prophétiques. Là, nous retombons sur ce que nous avons dit des écrits historiques, c'est-à-dire la dimension, n'est-ce pas, de connaître le secret de Dieu caché dans l'histoire. C'est là qu'intervient l'inspiration. Et puis alors, évidemment, nous avons des textes comme les proverbes. Les proverbes, alors, qui, eux, plus on arrive à cela, si vous voulez, moins il y a d'éléments de révélation. Mais il y a toujours l'élément d'inspiration. C'est-à-dire, cette direction de l'esprit qui fait que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Même si, en fin de compte, ils exprimaient ce qui était le fruit de leur propre réflexion. Ce qui était le fruit de l'expérience, d'une expérience qui avait été nourrie dans la présence de Dieu. Une expérience qui avait été celle d'hommes qui avaient marché avec Dieu et qui finalement résumaient ce qu'était pour eux justement la marche avec Dieu. Des sentences qui étaient comme autant de perles, de pierres précieuses qui étaient transmises aux générations futures pour savoir comment il s'agissait de se comporter justement dans ce qui était finalement un certain nombre de lois éternelles de Dieu, à la fois des hommes de tous les temps, de tous les lieux, et qui avaient été découvertes dans la réflexion, dans l'expérience. Alors même chose avec le livre suivant, qui... Oui, c'est, de, pardon, c'est avec un cœur de poisson. Oui, c'est un cœur de poisson qui a été moulu finement, etc., qui chasse le démon. Alors je passe sur les invraisemblances historiques et géographiques aussi que contient ce livre. On est en pleine légende, en pleine fiction. Alors ensuite on trouve le livre de Judith. Alors, le livre de Judith, c'est un livre aussi un peu du même style. Cette brave Judith est une veuve, une jeune veuve, qui est une femme extrêmement pieuse, qui après la mort de son mari, a vécu dans les jeûnes, dans la prière, etc. Et qui habite une ville qui s'appelle Bithulie, une ville tout à fait imaginaire, on ne connaît absolument pas de ville qui, dans l'Antiquité, portait ce nom. Et puis, cette ville est assiégée par le roi d'Assyrie, Nebuchadnezzar. Chacun sait que Nebuchadnezzar n'était pas le roi d'Assyrie, mais était le roi de Babylone. Enfin, ce livre de Judith n'est pas une invraisemblance près. Et à la tête de l'armée du roi se trouve un général qui s'appelle Holoferne. Et Holoferne met le siège devant la ville de Bithulie, et ça va très mal pour les habitants de Bithulie, qui risquent d'être massacrés par Holoferne. C'est alors que Judith se présente aux anciens de Bithulie pour dire, eh bien moi, je vais vous délivrer de le faire. Alors on lui donne carte blanche pour se faire. Alors Judith quitte ses habits de veuve, elle s'habille au contraire tout ce qu'il y a de plus attrayant, séduisant, etc. Elle se rend dans la tente de l'Holoferne pour le séduire. Alors l'Holoferne succombe au charme de Judith, et Judith en profite pour lui faire boire plus que de raison. Et puis Holoferne roule sous la table, et quand il est complètement ivre, Judith tire son épée, lui coupe la tête, ramène la tête d'Holoferne dans la ville, et c'est ainsi que la ville de Bithulie est découverte. Vous voyez aussi le niveau auquel ça vole. Donc c'est ça le livre de Judith. Ensuite nous trouvons les deux livres des Maccabées. Alors les deux livres des Maccabées, le premier a un intérêt historique certain, puisqu'il évoque les événements de l'époque asmonéenne. Mais nous trouvons alors là un certain nombre d'éléments qui sont en contradiction avec le reste de la révélation de Dieu. Pas dans le premier livre des Maccabées. Le premier livre des Maccabées, tout simplement, c'est un livre historique. Mais on ne trouve pas cette dimension prophétique qu'il y a dans les autres livres historiques de la Bible. Maintenant, le deuxième livre des Maccabées est beaucoup plus douteux. Le deuxième livre des Maccabées, d'abord, évoque un certain nombre d'éléments miraculeux, merveilleux. C'est là qu'on trouve par exemple l'histoire, vous savez, de la petite fiole de Hanouka qui a servi pour... etc. Bon, ça, admettons, c'est encore possible. On trouve aussi la description du jour de Nicanor, comme on l'appelle, quand Nicanor, le général syrien, est venu rentrer dans le temple. Et là, soudain, eh bien, un ange puissant du Seigneur l'avait expulsé de force du dessein, et puis finalement, Nicanor était tombé de mort sur le seuil du temple, puni pour sa tentative de profaner ainsi le lieu saint. Bon, admettons, c'est encore possible aussi. Mais alors là où ça n'a plus du tout, c'est qu'après une bataille autour de laquelle un certain nombre de soldats juifs ont été tués, Judas Maccabée et ses compagnons offrent des prières pour le repos de l'âme de ces soldats qui ont été tués au combat. On comprend aussi évidemment le parti que les catholiques ont pu tirer de ce livre-là. Alors, la conclusion est tout à fait étonnante de ce livre des Maccabées. L'auteur écrit, ben voilà, maintenant j'ai arrivé là, ben j'ai fini mon propos, j'ai fini d'écrire ce que je voulais vous dire. Alors, je ne sais pas si, dans le fond, j'ai réussi à faire quelque chose d'intéressant ou pas. Finalement, c'est à vous d'en juger, les lecteurs. Alors évidemment, celui-là, il est modeste, il n'a pas tellement un sentiment très très important d'avoir été conduit et d'inspiré par...